Invité de la deuxième heure de ces matins du samedi, Manon Aubry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée européenne La France Insoumise, vous êtes coprésidente du groupe La Gauche Européenne, dont nous parlerons tout à l'heure. Hier, les agents de la RATP étaient en grève pour défendre leur retraite. Lundi, ce seront les avocats, les infirmiers, les médecins, mais aussi les pilotes, les hôtesses, les stewards qui s'opposent à la disparition de leur régime de retraite complémentaire et qui comptent bien défendre leurs spécificités. Par ailleurs, les hôpitaux continuent leur mouvement. Ils étaient dans la rue mercredi. Les agents des impôts annoncent aussi une mobilisation nationale ce lundi. La rentrée sociale s'annonce tendue et assez chaude. On va y venir dans quelques instants, mais avant de parler des retraites et de la rentrée sociale, Manon Aubry, j'aimerais qu'on parle de quelques affaires en cours. Vous avez commencé de le faire en réagissant à l'incarcération qu'on a apprise hier des époux Balkany pour fraude fiscale, mais d'autres affaires sont en cours. On a donc appris aussi hier la mise en examen pour détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois présumés fictifs des parlementaires d'extrême droite au Parlement européen. Donc Jean-Marie Le Pen a été mis en examen. Et puis il y a d'autres affaires en cours du même ordre. François Bayrou, Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez sont entendus dans le cadre des emplois présumés fictifs des assistants d'eurodéputés. Il faut rappeler que l'enquête, alors là, il n'est pas question de mise en examen, l'enquête préliminaire est encore en cours malgré tout sur l'emploi des assistants parlementaires européens. On est toujours dans le même cas et des irrégularités des comptes de campagne de la France Insoumise et de Jean-Marie Jean-Luc Mélenchon.
Ne le confondez pas avec Jean-Marie Le Pen.
Non, mais voilà.
Ils n'ont rien à voir quand même.
Jean-Luc Mélenchon. Et puis il y a cette mise en examen qu'on a appris jeudi de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, LREM, pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Pardon de ces sautes de mots et de ces confusions, mais c'est vrai que les affaires se multiplient, qu'elles se rejoignent, qu'elles se regroupent pour un certain nombre d'entre eux et qu'on s'y perd un petit peu. J'aimerais vous demander si justement vous trouvez que toutes ces affaires se valent et si elles font au fond du mal à la politique, quel que soit leur niveau, quel que soit leur cause.
Alors d'abord, si toutes les affaires se valent, je crois qu'on ne peut pas mettre un signe égal entre toutes ces affaires. Je vais vous donner des exemples très concrets. Vous avez parlé de l'affaire de Jean-Luc Mélenchon. L'affaire de Jean-Luc Mélenchon, pour ses assistants au Parlement européen, elle est issue d'une dénonciation d'une députée du Rassemblement national. Aujourd'hui, à ce stade, on est encore dans le cadre de l'enquête préliminaire, dans le cadre du parquet et non d'un juge d'instruction. Ça fait la différence parce que le parquet en France, en tout cas, n'est pas indépendant. Un juge d'instruction est indépendant, c'est la justice qui fait son travail. Et si demain l'affaire arrive devant un juge d'instruction, alors elle fera son travail, mais alors nous serons extrêmement confiants et nous demandons que l'affaire arrive entre les mains d'un juge d'instruction. S'agissant de Sylvie Goulard, s'agissant de Jean-Marie Le Pen, là, on en est à un stade beaucoup plus avancé de l'enquête, dans les mains d'un juge d'instruction. Ça veut dire que l'enquête préliminaire a justifié l'ouverture d'une instruction judiciaire par un juge d'instruction. Donc c'est pas du tout le même niveau d'enquête. Je le dis parce que c'est important, parce que j'entends tout ce qui se passe en politique ces derniers mois et ces dernières années, et ça me permet de répondre à votre deuxième partie de la question, où globalement on essaie de jeter l'opprobre sur la classe politique dans son ensemble. Alors certains le cherchent, vous allez me dire, et en particulier sur la France Insoumise, qui se retrouve dans une position délicate, à être assimilée à ceux que nous combattons au quotidien, et une façon de faire de la politique qui nous, je vais vous dire franchement, qui nous débecte. Et moi, à chaque fois qu'on m'assimile, notamment au Rassemblement national, notamment à tous ceux qui font de la politique sans aucune éthique, ça me met vent debout. Mais tout ça, oui, fait beaucoup de mal à la politique, parce qu'au final, on peut comprendre que les gens retiennent juste un amalgame de choses en disant « ce sont tous des pourris ». Et le « ce sont tous des pourris », c'est des gens à la fin qui ne votent plus. C'est un électeur sur deux qui ne se rend pas aux urnes aux élections européennes. Et ça, à la fin, ça tue la démocratie.
Richard Ferrand, Manon Aubry, vous le soutenez comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon dans sa conférence de presse il y a deux jours, en disant qu'il était peut-être tombé dans un piège, le président de l'Assemblée nationale, et qu'on le clouait au pilori, ou vous pensez qu'il doit partir?
Je crois que sa déclaration était plus large que ça, notamment...
Ça revenait à ça quand même.
Notamment dire que là aussi c'est un juge d'instruction qui est saisi et donc un juge d'instruction c'est un juge qui est indépendant. Il faut que la justice suive son cours. Il y a évidemment la présomption d'innocence, mais le fait est qu'il est quand même poursuivi pour des chefs d'inculpation relativement graves et qui le met en difficulté pour assumer un rôle qui est important dans les institutions de la 5e République, à savoir la présidence de l'Assemblée nationale. Après, j'ai pas à me prononcer sur le fond de l'affaire, je fais confiance à la justice et si il est inculpé et s'il est condamné, alors il devra quitter même définitivement la vie politique, qui, je pense, ne peut pas s'accommoder de personnes qui n'ont que faire de l'éthique.
Vous êtes quelqu'un qui est indépendante d'esprit, Manon Aubry. On l'entend encore dans cette dernière remarque que vous venez de faire en disant que vous faites confiance dans la justice, puisque toujours lors de cette conférence de presse qu'il a tenue jeudi, Jean-Luc Mélenchon a dit, lui, qu'il n'avait pas confiance en la justice et qu'il ne croyait personne. Est-ce que ça n'est pas un problème pour un responsable politique de cet ordre-là, comme lui, de déclarer publiquement qu'il n'a confiance en personne et pas même en la justice de son pays?
Là aussi, je pense qu'il faut regarder, et j'invite tout le monde à regarder la conférence de presse dans son intégralité, parce que dénoncer aujourd'hui des dysfonctionnements de la justice, je pense que c'est de la responsabilité d'un homme politique. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que le système judiciaire fonctionne parfaitement en France. Je vous donne des exemples très concrets, on parlait de fraude fiscale. Patrick Balkany, condamné pour la première fois après des années, quand la plupart des fraudeurs fiscaux échappent à de la prison ferme, quand les grandes entreprises multinationales qui ne payent pas leur juste part d'impôt échappent à de la condamnation, et dans le même temps, on a aussi des policiers qui sont coupables de violences policières qui ne sont pas poursuivis. Et on a en même temps des gilets jaunes qui sont poursuivis en comparution immédiate. Donc il y a un deux poids, deux mesures. Et je crois qu'il y a un système judiciaire qui est loin d'être parfait et qui est d'ailleurs aussi pointé du doigt par les organisations syndicales du monde de la justice. Je pense notamment au syndicat de la magistrature. Et donc, pointer les dysfonctionnements de la justice, ça ne veut pas dire que on jette toute la justice.
C'est pas
à
tout
la
à fait pareil de pointer les dysfonctionnements de la justice, que vous, comme vous venez de le faire, Manon Aubry, et de dire je n'ai pas confiance en la justice de mon pays ou je ne crois personne.
Mettez-vous à sa place. Je crois qu'il y a de quoi être en colère quand vous êtes poursuivi, comme c'est son cas, et c'est le cas.
Il est convoqué avec 5 membres de la France Insoumise jeudi prochain au tribunal de Bobigny dans l'affaire des perquisitions au siège du mouvement. Il pourrait perdre son éligibilité s'il était condamné.
Et donc, il est poursuivi pour rébellion en réunion. C'est le chef d'inculpation principal. On peut tous regretter la réaction de Jean-Luc Mélenchon pendant les perquisitions. On peut en penser ce qu'on veut. À la rigueur, peu importe. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des coups pendant cette perquisition? Non. Est-ce qu'il y a eu entrave à cette perquisition? Non. Et donc, poursuivre en justice pour rébellion en réunion, parce qu'il faut être clair, il ne s'agit pas la semaine prochaine de juger le fond de l'affaire, puisqu'il n'y a aujourd'hui aucun élément dans cette enquête préliminaire que l'on évoquait juste avant.
Ils comparaîtront pour acte d'intimidation envers l'autorité judiciaire, rébellion et provocation.
Voilà. Et donc ce sont les chefs d'inculpation. Et là, je crois qu'on peut tous reconnaître que c'est excessif. On peut tout à fait, et à juste titre, dire « Ok, la réaction de Jean-Luc Mélenchon est disproportionnée, c'est celle d'un homme qui était surpris d'être perquisitionné. » Mais il n'y a pas eu de violence dans cette perquisition. Et je crois que là, cette affaire prouve qu'il peut y avoir une instrumentalisation de la justice. J'espère que la justice fera son travail, que tout reviendra au calme. Et moi, je ne crois pas en leur condamnation. Quand bien même, on peut regretter la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Il faut un peu de mesure dans les choses. On ne parle pas d'un grand délinquant.
Comparer la justice française avec le plan Condor en Amérique du Sud dans les années 70, c'est de la mesure?
Mais là aussi, j'invite à écouter l'ensemble de ces déclarations. J'ai beaucoup entendu dire notamment qu'il se compare à Lula. Non, Jean-Luc Mélenchon n'est pas Lula, le système judiciaire
brésilien. Non, mais il a comparé la justice française au plan Condor.
Mais le fait.
Il parlait de procès politique.
Il parle de procès politique parce que il y a aujourd'hui une instrumentalisation du système politique dans le cadre de ce procès. De nouveau, j'insiste là-dessus. On peut penser ce qu'on veut de la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Le fait de le poursuivre pour l'ensemble des chefs d'inculpation que vous avez énoncés, en sous-tendant du coup que l'ensemble de ces parlementaires présents ont empêché la perquisition, ce qu'ils n'ont pas fait du tout. Quand on écoute d'ailleurs la vidéo de Quotidien qui a été publiée dans son intégralité, on voit bien sur l'ensemble de la séquence que à plusieurs reprises, les parlementaires ont dit mais faites votre travail, allez-y, on veut juste assister à la scène, c'est notre simple demande, on a confiance dans ce que vous pourrez prendre, on veut juste savoir ce que vous pourriez nous prendre, ce qui fait partie du droit dans le cadre d'une perquisition. Donc voilà, je crois qu'il faut un peu redescendre dans toute cette histoire. Il y a pu avoir des excès de langage, mais pas de là à poursuivre en justice pour obstruction à une procédure judiciaire.
Malgré tout, c'est une semaine décisive pour la France insoumise. Est-ce que c'est la survie politique du mouvement qui est en jeu, Manon?
Je sais pas, je vais être honnête avec vous. Je pense que, en partie, le mal est déjà fait. Parce qu'on nous jette tous en pâture. Et c'est dur à vivre quand, moi, je découvre la politique depuis 6 mois. Il y a une forme de... Il y a une telle forme de violence en politique, de violence permanente, de violence verbale, de violence où vous êtes pointé du doigt, où on ne croit plus aujourd'hui au personnel politique. Et malheureusement, je crois que l'issue, quelle que soit l'issue du procès, moi je suis très confiante, je pense absolument pas qu'ils vont être condamnés, mais bon, la justice fera son travail, pas de problème. Mais je crois que le mal est déjà fait parce que dans l'imaginaire collectif, on associe notamment à cause du travail qui a pu être fait parfois d'assimiler la France insoumise à toutes ces affaires, alors que de nouveau on n'en est pas du tout au même stade. Je crois que le gros du mal est déjà fait et que la meilleure réponse qui pourra être la nôtre est de se concentrer sur le travail politique que nous faisons et ce pourquoi nous avons été élus, et qu'à la fin j'espère que la justice se lèvera tout soupçon qui peut peser sur les épaules de Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise.
Bon, alors quittons les affaires politiques, quittons cette rentrée politique. Le grand sujet du moment de la rentrée sociale, c'est le problème de la réforme des retraites annoncée par le gouvernement. Est-ce que déjà, tout simplement, Manon Aubry, il y a un problème en France ? Est-ce qu'il faut réformer les retraites ? Ou pour vous, comme par exemple pour 40% des Français interrogés lors d'un récent sondage, elle est inutile cette réforme ?
Mais je crois que, si je peux me permettre, ce sondage ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir plus de 6 millions de personnes âgées en plus d'ici 2050. Alors oui, il faut réformer notre système de retraite, mais pas du tout dans la direction prévue par le gouvernement qui est, plus de personnes âgées et les mêmes ressources financières, et donc on découpe le gâteau en encore plus petites parties, en qu'on annonce spécifiquement les personnes les plus pauvres et les plus fragiles et en versant vers le système privé avec un système de capitalisation. Moi, je pense qu'il faut faire tout l'inverse. C'est s'il y a plus de personnes autour de la table pour manger le gâteau, il faut un gâteau plus grand. Et aujourd'hui, les retraites...
Ce serait quoi le gâteau plus grand ?
Le financement,
c'est pas 36 solutions.
Le financement des retraites, c'est 14% du PIB. Alors oui, il faudrait 2 points, 3 points, 4 points de plus de PIB consacrés aux retraites. Et comment on fait ? Je vais être très claire, je crois que c'est le sujet qui malheureusement n'est pas du tout débattu dans le cadre de cette réforme des retraites, c'est le financement. Et le financement, oui, il faut lever le tabou et assumer une augmentation des cotisations sociales. Et qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de financer la protection sociale en France, c'est à travers les cotisations sociales. Lesquelles cotisations sociales n'ont pas du tout augmenté à la hauteur des besoins en matière de protection sociale. Alors, je fais un peu l'avocat du diable, je sais qu'on va nous répondre tout de suite, mais attendez, les entreprises n'ont pas les moyens, ça va faire baisser les salaires. Là aussi, il faut relativiser et analyser les données macroéconomiques. Les entreprises se portent très bien. Aujourd'hui, on prend par exemple les très grandes entreprises, elles reversent plus de 2/3 de leurs dividendes, de leurs bénéfices en dividendes aux actionnaires. De l'argent, il y en a, mais il s'agit, pour moi, et c'est pour ça que c'est une question fondamentale, cette histoire des retraites, comment on élabore notre système de protection sociale et dans quelle mesure on veut assumer un système collectif de partage, de mise en commun des risques, ça c'est pour la sécurité sociale, et de mise en commun du financement de nos retraites.
Ça c'est aussi ce que dit Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire aux retraites, qui promet des règles communes à tous. Et la fin des régimes spéciaux des retraites.
Les régimes spéciaux, c'est un espèce de totem qu'on saisit, mais qui ne concerne que 3% des retraites. La stratégie du gouvernement, c'est de diviser, monter les uns contre les autres, les régimes spéciaux les uns contre les autres. En fait, oui, on peut avoir un système commun, mais qui doit prendre en compte quand même les spécificités de chaque métier. Moi, en tant qu'eurodéputée, ma vie ne sera pas aussi difficile qu'un ouvrier, c'est clair. Et donc, lui devra partir à la retraite plutôt que moi, parce que son espérance de vie sera beaucoup plus faible que la mienne. Et ça, c'est tout à fait normal. Et ensuite, la réponse du gouvernement avec ce système à points, c'est clairement de faire perdre tout le monde. Et c'est ça qu'il faut garder en tête avec cette réforme des retraites, c'est qu'au final, on sera tous perdants. Et d'ailleurs, en cela, le rapport de Levoix est mensonger, il faut le dire, mensonger. Ça a été prouvé par un collectif qui s'appelle Nos Retraites, donc j'invite tout le monde à aller voir, qui a calculé une estimation du montant de retraite, par exemple pour ma génération. Moi, je suis née en 1989, donc pour la génération 90, on se fait souvent la blague avec les gens de ma génération. C'est en effet le papier que vous êtes en train de sortir pour les
simulations du collectif réforme des retraites.
Et pour ma génération des années 90, on se fait souvent la blague, on n'aura pas de retraite. Bah oui, ce qu'ils ont calculé, que par exemple, c'est le dernier scénario pour un employé du secteur privé au SMIC. Dans le système actuel, il aura 81% pardon, de son salaire en retraite. Et avec le nouveau système, il aura 64%.
On ne va pas rentrer dans les détails techniques, Manon Aubry, parce que le début de carrière est calculé à 22 ans, la carrière carrière et continue jusqu'à une retraite à 64 ans. On peut considérer qu'on rentre plus tard sur le marché du travail, qu'on vit plus longtemps, qu'il faut peut-être travailler plus longtemps. C'est toute la question du débat de
société aujourd'hui. Mais pourquoi on vit plus longtemps ? C'est pas parce que c'est aussi parce qu'on travaille moins longtemps. C'est on travaille moins longtemps parce que aujourd'hui, on a un système de protection sociale qui garantit une protection du salarié et ensuite de profiter d'une retraite avec un niveau de vie relativement décent. Et donc ça, c'est, je finis juste là-dessus. C'est une question fondamentale parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette réforme et dans les simulations qui sont faites actuellement, l'ensemble des citoyens sont perdants et en particulier les plus jeunes générations qui vont partir à retraite à 66, 68, peut-être 70 ans. Quel que soit, si on parle d'âge pivot ou de durée de cotisation, ça revient au même. On va tous travailler plus longtemps.
Il est 8h31 sur France Culture. Manon Aubry est notre invité. On vous retrouve d'ici quelques minutes. Notre invité, Manon Aubry, qui est eurodéputée La France Insoumise. Manon Aubry, c'est une histoire que nous raconte Matteo Caranta d'invisibilisation, de tentative d'invisibilisation de réfugiés. Est-ce que on peut généraliser le propos aujourd'hui en Europe?
Oui, et puis j'ai même au-delà sur le cas européen, les réfugiés sont même devenus les boucs émissaires utilisés par notamment une partie de l'extrême droite comme soi-disant la source de tous les maux que peuvent connaître les citoyens européens. Et donc aujourd'hui, on les pointe du doigt, enfin quand je dis on, une partie des dirigeants politiques et notamment l'extrême droite, on les pointe du doigt en leur disant bah, si vous êtes au chômage, c'est parce qu'il y a des réfugiés, plutôt que de remettre en question nos politiques économiques. Et puis on va y venir, mais sur la politique européenne menée en termes de migration, c'est une politique qui délocalise presque la gestion des migrations, notamment avec un accord avec la Turquie, par exemple, et qui, petit à petit, fait une militarisation aux frontières, notamment avec son programme Frontex, plutôt que de faire un accueil digne des migrants, notamment avec un programme de sauvetage en mer, où aujourd'hui, les ONG sont empêchées de sauver des vies en mer, et ça, c'est extrêmement grave. On a des gens, des êtres humains, qui meurent dans la mer Méditerranée, et on les regarde dans le droit des yeux, on leur dit « allez-y, mourrez ».
Mardi, la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté les membres de sa commission. Elle a composé cette commission de 13 femmes et de 14 hommes. Parmi eux, un commissaire va être chargé de protéger notre mode de vie européen. C'est en fait la charge du dossier migratoire, dont l'intitulé a changé, puisqu'il devient donc protéger notre mode de vie européen. On sait déjà que cet intitulé fait débat, fait polémique. Est-ce que pour vous, Manon Aubry, c'est une erreur de communication, comme on en entend déjà un peu parler, ou c'est un dérapage parfaitement contrôlé ?
Je crois que malheureusement, je crains que ce soit un dérapage parfaitement contrôlé et qui témoigne de la politique migratoire européenne, dont je mentionnais des exemples. La Commission européenne aurait voulu reprendre le thème, les arguments de l'extrême droite, qu'elle n'aurait pas fait mieux. Et c'est un marchepied très dangereux pour l'extrême droite. Protéger le mode de vie européen, on aurait pu penser, je sais pas, ce commissaire serait en charge de protéger la planète, des accords de libre-échange, de protéger les violations de l'état de droit. Non, aujourd'hui, pour la Commission européenne, protéger le mode de vie européen, c'est être en charge des questions migratoires. Et je trouve que c'est extrêmement grave.
Elle s'en défend, bien évidemment, Ursula von der Leyen. Elle s'en défend en disant qu'il s'agit là d'entendre la sécurité d'un certain nombre de valeurs aujourd'hui qui sont mises à mal dans notre monde, ce qui n'est pas complètement faux, Manon Aubry.
Vous voyez bien que c'est tout le problème. Le mot sécurité, à chaque fois que l'on parle de migration, on pense au mot sécurité. Et puis au-delà de ça, c'est quoi le mode de vie européen ? C'est les Espagnols qui mangent à 23h ou à 22h et les Nordiques qui mangent à 18h. Je sais pas ce que c'est le mode de vie européen. Non mais sérieusement, j'en fais une blague, mais sérieusement, il ne veut rien dire. Et je vais vous dire, c'est même plus grave que ça. Moi, je suis présidente de groupe et on a demandé cette semaine à la conférence des présidents, au vu du tollé de cette commission, qu'il y ait un débat qui soit organisé en session plénière avec Ursula von der Leyen, la présidente de la commission, et ça a été refusé par les autres groupes. Mais de quoi ont-ils peur ? De quoi ont-ils peur ?
En même temps, les eurodéputés doivent auditionner les nouveaux membres de la Commission européenne. Vous en faites partie, ce sera entre le 30 septembre et le 8 octobre. Vous allez avoir quelle position, Manon Aubry ?
Vous savez que notre rôle et notre pouvoir en tant qu'eurodéputé, je le découvre, puisque je suis élue pour la première fois, est extrêmement faible. Il ne faut pas raconter d'histoire aux gens. On va en effet auditionner les commissaires dans le cadre...
Puis voter
sur le package. Sur le package, c'est-à-dire que on sera amené à voter sur est-ce que vous voulez de l'ensemble des commissaires qui sont nommés. Mais peut-être qu'il y a un commissaire qui nous ira et un commissaire qui nous ira pas. Et donc, je trouve que ça en dit long, et c'est une réflexion que j'ai plus générale en découvrant le rôle d'eurodéputé sur la considération du Parlement européen comme un outil de contrôle démocratique. Et le sentiment que j'ai de ces deux mois et quelques de mandat, c'est que l'essentiel des décisions européennes se passe quand même dans les couloirs, avec une transparence extrêmement limitée. On peut parler aussi tout simplement de la nomination de la présidence de la Commission européenne. Qui savait avant les élections européennes que ce serait Ursula von der Leyen ? Quelle est aujourd'hui sa légitimité démocratique pour être présente à ce poste ? Je dis pas qu'il fallait quelqu'un de la France insoumise président de la Commission européenne. Je suis bien consciente du rapport de force au niveau européen. Mais nous, on a juste aimé être.
Elle a un parcours politique exemplaire. Elle a été ministre en Allemagne de plusieurs mandats et de, elle a eu plusieurs fonctions.
Oui, elle a défendu aussi.
Ce serait quoi la légitimité démocratique ?
Elle a défendu aussi une Europe avec une armée forte. Elle défend les accords de libre-échange qui continuent à détruire la planète.
Ça n'est pas antidémocratique.
Non, ce qui est antidémocratique, c'est
pas votre politique.
Vous, quand vous êtes rendu aux urnes le 26 mai dernier pour voter aux élections européennes, vous n'aviez aucune idée de qui serait président de la Commission européenne. Et il faut rappeler le rôle que joue aujourd'hui la Commission européenne. On n'est pas dans une démocratie normale où il y a un Parlement d'un côté et l'équivalent d'un gouvernement avec la Commission européenne. Dans le cadre européen, seule la Commission européenne peut initier des directives européennes. En gros, concrètement, seule la Commission peut initier la loi européenne. Nous, en tant qu'eurodéputés, on va juste l'amender. Donc c'est pas une petite question de qui dirige la Commission européenne. Et en cela, c'est pas démocratique. Parce que vous comme moi, nous n'avions pas choisi Jean-Claude Juncker, précédemment président de la Commission européenne, impliqué dans des affaires d'évasion fiscale. Nous n'avons pas choisi Ursula von der Leyen. Il ne faudra pas s'étonner alors que les citoyens européens se sentent éloignés de la démocratie européenne qui, on le voit, montre quelques limites quand même.
Manon Aubry, vous vous êtes jetée dans le bain de la politique, vous l'avez dit, il y a 6 mois, peut-être 1 an, hein, en vue des européennes. Vous venez du milieu associatif. Est-ce que vous regrettez d'être venue en politique, compte tenu de tout ce que vous dites aujourd'hui ?
C'est une question qu'on me pose souvent. Je vais être honnête avec vous, je le regrette pas, parce que malgré les difficultés. Je le regrette pas parce que j'ai mis énormément de temps à me décider à sauter le pas. Ça a été 3 mois de
réflexion. Vous n'avez que 29 ans, hein, donc énormément de temps, il faut
réutiliser. Non, énormément de temps à réfléchir. En fait, au moment où on m'a fait la proposition l'an dernier, j'ai mis 3 mois à réfléchir avant de prendre ma décision. Et la raison qui m'a poussée à sauter le pas, c'est que dans mon action associative en luttant contre l'évasion fiscale ces dernières années, à de nombreuses reprises, je me suis heurtée au champ politique. Et je me suis heurtée au manque de volonté politique. J'ai essayé de faire boire des ânes qui n'avaient pas soif. Et donc, je me suis dit, plutôt que d'essayer de convaincre des députés, des ministres, etc., moi, je pouvais être une eurodéputée qui appuie sur le bouton oui ou non. Alors, évidemment, dans le cadre des institutions européennes, comme je mentionnais, et de cadre des limites démocratiques actuelles, je me fais pas d'illusions. Je sais que je ne vais pas être en capacité de changer tout du jour au lendemain. Mais je trouve que c'est une continuité naturelle, mon engagement associatif, malgré les difficultés que ça pose et malgré tout ce qui m'interroge depuis mes débuts en politique. Je tiens un espèce de carnet de, un journal de bord depuis le début pour continuer à noter tout ce qui m'étonne dans la crainte dans 6 mois, 1 an, 2 ans de ne plus être étonné du fonctionnement politique et finalement de voir tout ça comme un œil aguerri politique et devenir blasé comme j'en vois beaucoup dans le monde politique.
Vous êtes la plus jeune pour l'instant de l'histoire à présider un groupe au Parlement européen à 29 ans donc. Est-ce que ça vous donne une responsabilité particulière ou est-ce que ça vous ferait craindre des choses particulières ?
Déjà, on me prend souvent pour une assistante. Donc c'est assez drôle parce que le fait d'être une jeune femme venue du milieu associatif, je sais pas si ça altère la crédibilité, mais en même temps, moi je trouve que notre responsabilité, et c'est la manière dont je vois mon rôle de présidente de groupe au Parlement européen, c'est de mettre les deux pieds dans le plat. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, j'étais en conférence des présidents de groupe avec la présidence du Conseil en Finlande. Et on avait tout le protocole. On allait voir le Premier ministre. Moi, j'avais jamais déjeuné à la table d'un Premier ministre. Ça fait toujours un peu bizarre. Dans sa résidence, l'équivalent du Versailles là-bas, on a des rendez-vous d'une demi-heure. Vous êtes escorté par la police. Enfin, c'est un monde bizarre et un peu à part. Et j'avoue que j'ai un peu du mal à m'y faire. Et donc, tout était très guindé, etc. Et on avait peu de temps de parole. Et le peu de temps de parole que j'ai utilisé, je me suis dit, je vais enlever tout le protocole. Je vais mettre les deux pieds dans le plat. Je vais dire, vous avez la présidence du Conseil, vous avez dénoncé Bolsonaro au Brésil et son attitude vis-à-vis des feux de forêt. Eh bien, pourquoi vous continuez à soutenir l'accord de libre-échange avec le Mercosur ? dont fait partie le Brésil, dont on sait très bien qu'il aura un impact sur la planète. Je lui ai posé aussi des questions sur des dossiers qui sont bloqués au Conseil, sur l'évasion fiscale. Voilà comment je pense qu'on doit utiliser ce mandat-là. Et aussi, le fait de venir de la société civile et du monde associatif, il faut, je crois, faire tomber les espèces de murs immenses qui séparent le monde réel du Parlement européen et qu'on doit être à la fois un pied dedans le Parlement et un pied dehors aux côtés des mobilisations sociales, aux côtés des vrais gens, parce que c'est fou à quel point le Parlement européen vous déshumanise l'ensemble des questions qui y sont traitées.
De quelle façon ?
Bah, je vais vous donner plein d'exemples.
Un seul suffira.
Un seul. Je suis assez sidérée du fait qu'on nous envoie des dossiers de 1000 pages, 2 heures avant une réunion. Allez hop, vous allez à vous prononcer. Et donc, ça veut dire qu'on ne considère même pas qu'on va étudier de près le dossier et qu'on a un avis à avoir et qu'on va auditionner des personnes qui seront, par exemple, directement impactées par une directive européenne. Je pense notamment à la question, je sais pas, des travailleurs ubérisés.
Vous restez avec nous, Manon Ombry, les 8h45 sur France Culture. On entre dans le dernier quart d'heure des matins du samedi. Un dernier quart d'heure qui s'ouvre avec Matteo Caranta, qui est resté avec nous dans le studio pour vous écouter, Manon Ombry, et qui a rencontré une romancière pour l'idée culture.
Absolument, cette semaine, je me suis rendu chez Karine Tulle, qui publie en cette rentrée littéraire Les choses humaines chez Gallimard. Alors, Les choses humaines est sur la première liste du prix Goncourt, et comme souvent chez l'autrice, elle puise dans l'actualité pour y trouver ses ressorts romanesques. Ici, elle explore le revers de la gloire d'une famille puissante et s'interroge sur la question du consentement et de la culture du viol. Et la domination est également au cœur de la sculpture qu'elle a choisi de nous raconter.
Alors c'est une sculpture de l'artiste norvégien Bjørn Melgaard qui s'appelle The Black Woman Chair. Et c'est une œuvre d'art qui a été importante pour moi puisqu'elle est presque un personnage à part entière de mon dernier roman L'Insouciance. Dans le cas de Black Woman Chair, en fait, il avait réinterprété des œuvres d'Alan Jones. C'était la série Table Chair at Hand, datant de la fin des années 60. Et c'était des femmes corsetées de cuir et de latex noir, utilisées comme des objets d'intérieur. Et lui, à l'époque, il voulait justement dénoncer cette image de la femme objet, cette chosification de la femme. Et c'était une œuvre d'art qui se voulait contestataire et féministe. Et Melgaard, lui, a réinterprété cela et même allé plus loin en choisissant une femme noire. Et du coup, c'est vrai qu'il donnait une dimension raciale à la dénonciation. En fait, il y a eu une image qui a été diffusée sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que j'en ai pris connaissance. Et en fait, c'était une image qui avait été publiée par le site de mode russe Bureau. Et ça avait suscité une vague d'indignation parce qu'on y voyait une femme richissime, une collectionneuse d'art qui s'appelle Dusha Zhukova, qui est la fille d'un oligarque très influent et qui était la femme de Roman Abramovitch, autre oligarque très influent. Et on la voyait posée sur cette sculpture. Et ça avait fait polémique parce qu'évidemment, on y voyait un symbole de domination, la femme blanche de pouvoir apprêtée sur cette chaise qui représentait une femme noire dans une posture obscène. Et il y avait eu un tel tollé que cette femme, cette collectionneuse, avait dû présenter des excuses publiques. Et j'ai pensé que ce serait un ressort romanesque très intéressant. Et donc, dans L'Insouciance, un de mes personnages principaux s'assoit sur cette chaise. Donc la sculpture de Melgaard représente une femme noire dans une position assez obscène. Les jambes, elle est à moitié nue, hein. Elle porte une culotte en cuir noir, des bottes noires à talons très hauts, lacées derrière, avec une ceinture de cuir qui corsette à la fois ses jambes et son dos. Les jambes qui appuient sur une poitrine opulente, un corps huilé, la bouche rose vif, donc on dirait vraiment une poupée. Il y a quelque chose de très érotique dans cette image. Et l'assise, donc le fauteuil en cuir, est placé au niveau des jambes et des fesses de la sculpture. Si bien que quand effectivement on voit une personne, alors dans mon roman, c'est mon personnage de mon roman, et sinon c'était cette fameuse collectionneuse d'art russe, quand elle s'assoit, on a l'impression d'un écrasement. En fait, elle écrase, la personne qui s'assoit écrase cette femme, et évidemment, ça fait penser à une forme de soumission-domination quand j'ai vu effectivement moi-même cette femme, en plus à la peau claire, avec une chemise blanche, avec quelque chose d'assez apprêté, d'assez élégant, d'assez luxueux en fait dans la posture, sur cette sculpture qui est vraiment particulière. Cette image m'avait profondément heurtée. Et d'ailleurs, j'ai compris à cet instant-là à quel point d'ailleurs une photographie pouvait avoir un impact très, très fort. Moi, je m'intéresse beaucoup justement à l'impact des œuvres d'art, des livres et des photographies en particulier, voir ce qu'ils suscitent chez l'autre. Et là, il y avait effectivement une dimension politique et sociale que ceux qui possédaient l'œuvre n'ont pas perçue, mais qui était effectivement très perceptible pour ceux qui contemplaient l'œuvre.
Voilà l'idée culture de Karine Tuile qui évoque, Matteo, finalement le choix artistique dont nous avait parlé Léonora Miano il y a quelques semaines, une quinzaine de jours.
Absolument, c'était le Rapt de la Négresse, donc c'était une peinture du XVIIe siècle et trois siècles plus tard, on peut voir que les questions demeurent.
Est-ce qu'elles demeurent pour vous, les questions, Manon Ombré, quand vous entendez ça, des questions en l'occurrence de domination masculine croisée avec des questions raciales, mais soumission, domination
Oui, et à tous les niveaux de la société, que ce soit au quotidien, dans notre vie quotidienne, et je crois que beaucoup de femmes peuvent faire ce témoignage, et au plus haut niveau, jusque dans la sphère politique, on le vit au quotidien, J'espère qu'il ne faudra pas encore plusieurs siècles pour renverser complètement les systèmes de pensée qui offrent à la gente masculine une place considérable. Et si vous doublez cette question des questions raciales, je crois que c'est une double discrimination que subissent ces femmes.
Karine Tuile parlait aussi de l'impact des œuvres d'art. Comme quoi elle y croit beaucoup, normal, elle est romancière aussi. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette importance, voire à l'impact, à l'effet que peuvent avoir les œuvres d'art sur nos vies individuelles bien entendu, mais sur nos vies collectives aussi?
Quand on regarde l'histoire, l'art a souvent accompagné des changements culturels, voire a même précédé des changements culturels. Donc je crois que l'art peut être un outil dans ce sens, ce d'autant plus quand c'est un art qui est populaire, qui s'empare de nos rues, de notre environnement, et que c'est pas un art qui est réservé à une élite spécifique et que ça peut être un art de rue, des choses qui sont exposées dans la rue, ou même des arts, différents types d'art. On peut penser aussi à la danse qui peut véhiculer des messages dans des quartiers populaires. Il y a plein de manières d'utiliser l'art pour accompagner ces changements culturels qui sont bien nécessaires.